Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le dimanche des Rameaux. Ayant dit ces choses, Jésus prend la tête pour monter à Jérusalem. Alors, comme il approche de Bethphagée et de Béthanie, près de ce qu'on appelle le mont des Oliviers, il envoie deux des disciples en disant
« Allez jusqu'au village qui est en face. En y entrant, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, c'est ainsi que vous direz « Le Seigneur en a besoin ».
Les envoyés partent et trouvent comme il leur a dit. Comme ils détachent l'ânon, ses maîtres leur disent
« Pourquoi détachez-vous l'ânon ?»
Ils disent
« Le Seigneur en a besoin ».
Ils l'amènent à Jésus, et jetant leur manteau sur l'ânon, ils font monter Jésus. Sur son passage, ils étalent leur manteau sur le chemin. Alors qu'il approche déjà de la descente du mont des Oliviers, dans sa joie, toute la foule des disciples se met à louer Dieu à forte voix pour tous les miracles qu'ils ont vus. Ils disent
« Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur Dieu. Paix au ciel et gloire au plus haut des cieux. »
Dans la foule, quelques pharisiens lui disent
« Maître, raboute tes disciples. »
Il répond
« Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. »
Quand il approche de la ville à sa vue, il pleure sur elle en disant
« Si toi aussi tu avais su en ce jour, comment trouver la paix ?» Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Voilà un texte bien connu, mais qui peut nous sembler étrange. Comment comprendre cette entrée triomphale si l'on songe à ce qui va arriver dans les jours qui suivront, l'arrestation, la condamnation et l'exécution de Jésus? Pourquoi Jésus risque-t-il sa vie en se comportant en Messie, lui qui jusqu'alors a toujours fait taire ceux qui lui donnaient ce titre?
Regardons le contexte, le chapitre 19 vient relater en effet les derniers moments de cette longue marche de Jésus vers la ville sainte, telle au moins que rapportent les récits synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Une marche qu'ils font commencer après la transfiguration.
Comme arrivait le temps où il allait être enlevé de ce monde, Jésus prit résolument la route de Jérusalem.
Eh bien maintenant, au bout de cette marche, le temps est accompli, la mort est toute proche. Pour bien saisir tout l'enjeu de cette venue de Jésus à Jérusalem, il faut tenir compte des chapitres qui précèdent et de ceux qui suivent. Dans ces chapitres, Jésus, en effet, il sera présenté comme le roi Messie, accueilli par les uns et rejeté par les autres. Le chapitre 18 se terminait sur la guérison de l'aveugle de Jéricho qui s'est mis à suivre Jésus. Et le début du chapitre 19 relate l'histoire de Zachée, un pécheur notoire parce que publicain, qui pourtant accueille Jésus et se convertit.
Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
Mais autant Zachée a su accueillir Jésus, autant les autorités de Jérusalem refuseront de le reconnaître comme l'envoyé de Dieu. Et à la suite de l'épisode des vendeurs chassés du temple, les chefs des prêtres, les scribes, les notables chercheront à faire périr Jésus. Enfin, le chapitre 20 relatera cette parabole des vignerons meurtriers qui se débarrassent du fils du maître de la vigne. Ce maître de la vigne est Dieu, et le fils héritier dont on se débarrasse est Jésus. Cette entrée, donc, à Jérusalem va se dérouler dans une ambiance de grande tension.
envoie deux des disciples en disant « Allez jusqu'au village. En y entrant, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous? » C'est ainsi que vous direz « Le Seigneur en a besoin. »
Cette mise en scène, qui semble organisée par Jésus lui-même, va s'éclairer à la lumière des Écritures saintes et notamment de la prophétie de Zacharie au chapitre 9.
« Poussez des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne. Il annoncera la paix aux nations. »
Vous trouverez donc un ânon. L'histoire des religions nous montre qu'un animal qui n'a jamais été utilisé, sur lequel personne ne s'est jamais assis, dit notre texte, eh bien cet animal a un caractère sacré, une bête qui était destinée au sacrifice offert à un dieu devait être vierge. Le premier livre de Samuel mentionne cette même consigne.
« Maintenant, prenez et préparez un chariot neuf. » Et deux vaches qui allaitent et n'ont pas porté le joug.
Dans ce texte, il est demandé un chariot qui soit neuf et des bêtes qui n'ont pas travaillé. Précisément, à cause de l'usage sacré qu'on va en faire, puisqu'il s'agit de porter l'arche de l'Alliance de Dieu. Ici, l'ânon sera monté par le Seigneur Jésus, le Messie de Dieu, celui à qui Dieu a donné l'onction. Et il est spécifié parce que le Seigneur en a besoin pour poursuivre sa mission. C'est l'unique fois en Luc où Jésus lui-même parle de lui en employant ce titre de Seigneur. Dans la langue juive, le mot Adonai signifie maître. C'est en grec ce fameux mot que nous disons Kyrie. Il est donné à Dieu dans la Bible pour dire que Dieu est le maître suprême d'Israël et il pouvait être donné au roi Messie puisque ce roi Messie tient lieu de Dieu au milieu du peuple. Le mot « Seigneur » deviendra le titre principal que les premiers chrétiens donneront à Jésus ressuscité. Mais dans les textes bibliques, l'âne est aussi une monture royale et elle sera donc la monture du roi Messie. En comparaison avec le cheval fougueux qui sert de monture pour faire la guerre, l'âne est vu comme la monture d'un roi pacifique. La Torah interdisait en effet au roi Messie d'acquérir des chevaux en trop grand nombre, au chapitre 7 du Deutéronome. Le Messie est en effet celui qui doit apporter la paix à son peuple. Autre chose à noter, la procession va partir du mont des Oliviers. Et là encore, ce sont les traditions juives qui nous éclairent sur l'importance de ce mont des Oliviers, un mont qui se trouve aux portes de la ville de Jérusalem. Au temps de Jésus, certaines traditions s'appuyaient, encore une fois, sur un texte de Zacharie au chapitre 14 pour dire que Dieu viendrait lui-même libérer Israël. Et le lieu de cette venue de Dieu serait le mont des Oliviers.
Le Seigneur Dieu sortira pour combattre les nations païennes. Ses pieds, en ce jour, se poseront sur la montagne des Oliviers, qui fait face à Jérusalem du côté de l'Orient.
Les pieds de Dieu, de l'Éternel, se poseront sur le mont des Oliviers. Dieu y descendra comme il est descendu sur le Sinaï pour donner la Torah à Moïse. Cette tradition, Dieu qui vient sur le mont des Oliviers, fusionnait la fin des temps et l'avènement du Messie. Et nous avons une trace de ces croyances dans un écrit de l'écrivain juif Flavius Joseph, qui est un contemporain de Jésus.
À ce moment, vint à Jérusalem un Égyptien qui se disait prophète et qui conseilla à la populace de monter avec lui au mont des Oliviers. Il répétait aux gens qu'il voulait leur montrer comment, sur son ordre, les remparts de Jérusalem s'écrouleraient.
Eh bien, toute cette mise en scène de Jésus pour son entrée à Jérusalem a donc pour but de nous dire qu'il y rentre, qu'il y vient comme un Messie, mais un Messie humble et porteur de la paix de Dieu.
Jetant leur manteau sur l'ânon, ils font monter Jésus. Sur son passage, ils étalent leurs manteaux sur le chemin.
Le geste d'étendre les manteaux sur le chemin évoque les honneurs royaux. Le livre des rois en parle à propos de Jéhu, qui fut le 10e roi d'Israël.
Aussitôt, tous prirent leurs manteaux et les étendirent sous lui, à même les degrés. Ils sonnèrent du cor et crièrent « Jésus est roi ».
La royauté de Jésus sera aussi soulignée par des allusions au récit du sacre de Salomon. Salomon qui fut un grand roi messie, le fils et successeur de David, et dont le nom d'ailleurs évoque la shalom, la paix.
Le prêtre Sadoc, le prophète Nathan, descendirent. Ils mirent Salomon sur la mule du roi et ils le menèrent à Géon. Le prêtre Sadoc prit dans la tente la corne d'huile et oignit Salomon. On sonna du cor et tout le peuple cria « Vive le roi Salomon !» Puis tout le peuple monta à sa suite et le peuple jouait de la flûte et manifestait une grande joie avec des clameurs à fendre la terre.
Eh bien, on voit que le rapprochement est facile avec notre texte. Comme le disait déjà le récit de Luc au chapitre 11, en Jésus, il y a un Messie plus grand que Salomon.
Dans sa joie, toute la foule des disciples se met à louer Dieu à voix forte. Ils disent « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur Dieu. Paix au ciel et gloire au plus haut des cieux. »
Le cri « Béni soit celui qui vient » est un extrait du dernier psaume de ce qu'on appelle le Hallel. Hallel est le nom qui est donné à un groupe de psaumes, les psaumes 113 à 118, par lesquels on louait Dieu lors de certaines solennités. Et pour décrire l'entrée de Jésus à Jérusalem, il semble bien que les récits évangéliques ont été inspirés plus particulièrement par la fête des tentes. Certains spécialistes suggèrent même que ce serait au cours de cette fête, qui avait lieu en fin septembre, qu'aurait eu lieu cette entrée triomphale et non pas dans les jours précédant la Pâque. La fête des tentes était en effet la plus populaire de toutes les fêtes juives. On y commémorait la royauté de Dieu, une royauté qui s'établirait un jour sur la terre entière lorsque Jérusalem serait enfin libérée. Et là encore, c'est le texte de Zacharie qui nous éclaire.
Il arrivera que tous les survivants de toutes les nations monteront année après année pour se prosterner devant le roi, le Seigneur, le Tout-Puissant, et célébrer la fête des tentes.
On venait au cours de cette fête en procession jusqu'au temple en portant des rameaux verts et des palmes, et on agitait ces rameaux pendant qu'on chantait en chœur alterné le psaume 118. Les gens de Jérusalem, qui se trouvent à l'intérieur des murs de la ville, répondaient à ceux qui arrivaient, qui étaient encore à l'extérieur.
« Donne le salut, Seigneur, donne. Donne la victoire, Seigneur, donne. Béni soit au nom du Seigneur, Dieu, celui qui vient. »
Nous vous bénissons depuis la maison du Seigneur. Eh bien, en Luc, l'expression du psaume « Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient » est un peu transformé. Au lieu de joindre au nom du Seigneur au verbe « bénir », on le relie au verbe « venir » et cela donne « béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». L'expression « celui qui vient » deviendra d'ailleurs un titre du Messie. Dans les récits de Matthieu et de Marc, la foule crie « Hosanna, au fils de David ». « Béni soit le royaume qui vient, celui de notre père David. » Et « Hosanna », c'est, dans la traduction que nous avons entendue tout à l'heure, « donne le salut ». On peut supposer que Luc n'utilise pas cette expression pour éviter ce qui pourrait faire penser à une revendication de l'indépendance d'Israël par rapport aux Romains. Pour Luc, en effet, il est bien clair que l'entrée messianique n'est pas d'abord un événement politique. Même salué comme roi par les siens, Jésus est avant tout celui qui se prépare à souffrir et à passer de ce monde à son Père. Jésus n'a cessé de prévenir que le temps de la plénitude du règne de Dieu n'est pas encore arrivé. On sait pourtant que les disciples espéraient que Jésus allait prendre le pouvoir. Par les récits de Matthieu et de Marc, nous savons que Jacques et Jean en ont fait la demande. Ils veulent siéger à la droite et à la gauche de Jésus dans son royaume. Et même après Pâques, les apôtres ne feront-ils pas encore cette demande « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ?» Et pourtant, avant son entrée à Jérusalem, le récit de Luc avait illustré ce qui va advenir par une parabole.
Comme les gens écoutaient ces paroles, Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et que se figurait que le règne de Dieu allait se manifester sur le champ.
Et cette parabole raconte l'histoire d'un homme qui part de son pays pour aller recevoir la royauté. En effet, au temps de Jésus, les rois juifs aussi bien ceux de Judée que de Galilée, allaient recevoir leur royauté des mains de l'empereur de Rome. L'homme de la parabole, là, eh bien c'est Jésus lui-même qui va quitter ce monde et qui reviendra à la fin des temps, après avoir reçu la royauté éternelle de Dieu son Père. Pendant son absence, il compte que ses serviteurs fidèles fassent fructifier les biens du royaume. Et dans la parabole des vignerons meurtriers, une parabole que Jésus va dire après son entrée à Jérusalem, il annoncera qu'il sera rejeté par les vignerons, mais que ce rejet n'empêchera pas la réalisation définitive du règne. Le Fils rejeté reviendra en effet pour régner sur le peuple de Dieu, comme cette pierre dont parle le psaume 118, que les bâtisseurs ont rejetée et qui deviendra pourtant la pierre d'angle de l'édifice.
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre angulaire.
Mais ce ne sera donc qu'au terme de l'histoire que le règne sera définitivement réalisé. L'acclamation « Paix dans le ciel, gloire au plus haut des cieux » évoque sans doute pour nous le chant des anges et des bergers à la naissance de Jésus.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix pour les hommes, ses bien-aimés.
Mais on voit que là, il n'est plus question de cette paix sur la terre. En effet, elle a été, d'une certaine manière, refusée. À la foule des anges correspond maintenant celle des disciples, les disciples qui louent Dieu pour tous les miracles qu'ils ont vus, retrouvant l'attitude des bergers qui, à la naissance de Jésus, glorifient et louent pour tout ce qu'ils ont entendu et vu. Ils célèbrent la paix qui vient de Dieu à travers ce roi Messie. Dans la Bible, la paix signifie la plénitude de vie. Elle est donc un don du Messie par excellence, comme le disait le prophète Isaïe lorsqu'il annonçait l'avènement d'un nouveau roi.
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a reçu l'empire sur les épaules, on lui donne ce nom. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Dieu éternel, prince de la paix. Étendue est l'empire dans une paix sans fin, pour le trône de David et sa royauté, qu'il établit et qu'il affermit dans le droit et la justice. Dès maintenant et pour toujours, l'amour du Seigneur Dieu fera cela.
Jésus Messie est porteur de paix, mais il ne l'apporte pas à la manière d'un roi qui prépare la paix en faisant la guerre. On se souvient du fameux proverbe romain « qui veut la paix prépare la guerre ». Jésus apporte la paix, mais il ne se fait pas d'illusions. Malgré les acclamations, il sait fort bien que Jérusalem refuse de l'accueillir.
Quand il approcha de la ville et qu'il aperçut, il pleura sur elle. Il disait, « Si toi aussi tu avais su, en ce jour, comment trouver la paix ? Mais hélas, cela a été caché à tes yeux. »
La Pâque juive va prochainement s'accomplir. Elle rappellera aux pèlerins juifs la sortie d'Égypte, où Dieu a libéré le peuple de la servitude. Pour Jésus, ce sera la Pâque de sa sortie de ce monde. Et c'est dans le don de sa propre vie par amour qu'il va être pour beaucoup une force de libération, une force qui permettra de se libérer, mais de se libérer de la servitude de la haine.
Dans la foule, quelques pharisiens lui disent « Maître, rabroue tes disciples. » Il répond « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. »
Alors comment comprendre cet avertissement que donnent les pharisiens? Peut-être visait-il à faire attention à l'armée romaine et à ses collaborateurs qui surveillaient en effet tout mouvement populaire de révolte ou d'insurrection, et tout spécialement lorsqu'il y avait fête, puisqu'il y avait alors des milliers et des milliers de personnes, de pèlerins à Jérusalem. Jésus répond que ce seront les pierres qui crieront, et cette expression peut rappeler un passage du livre du prophète Habacuc.
Car des murailles même la pierre crie, de la charpente la poutre lui répond.
Une phrase obscure, mais qui doit signifier que rien ne saurait empêcher Jésus d'être acclamé comme Messie. Même si les disciples se taisent, ce sont les pierres qui crieront, et elles crieront pour parler à la place de tous ceux qui rejettent le Messie.
Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient. « Ma maison sera une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de bandits. »
C'est au temple qu'aboutit cette entrée à Jérusalem. Pour les Juifs, le temple, on le sait, est la demeure de Dieu, le cœur même de la vie d'Israël. On se souviendra que l'évangile de Luc a commencé au temple, par la révélation qui a été faite à Zacharie, le père de Jean le Baptiste, mais aussi par la présentation de Jésus où le vieillard Siméon avait prophétisé.
Il prit l'enfant Jésus dans ses bras et il bénit Dieu en ces termes. « Maintenant, maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples. Lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël, ton peuple. » Siméon dit à Marie, sa mère, « Il est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté. Et toi-même, un glaive te transpercera l'âme. Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. »
Jésus vient et il sera ou chute pour certains ou relèvement pour d'autres. Dans quelques jours, l'oracle s'accomplira. Le prophète Jésus sera tué, mais la vocation du temple, elle aussi, sera terminée.
Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides de ceux qui te sont envoyés. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Eh bien, elle va vous être abandonnée, votre maison. Oui, pour toi des jours vont venir où tes ennemis ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu as été visité.
Le cœur du temple était là pour abriter les symboles de la présence de Dieu au milieu de son peuple, c'est-à-dire les tables de la Torah et la manne. Mais pour Jésus, le vrai temple de Dieu, le véritable lieu de sa présence, c'est sa personne même. C'est lui qui est la Torah et la Torah vivante, la règle de vie parfaitement accomplie dans sa vie d'homme. C'est lui le Fils parfait du Père. Et lorsqu'il sera ressuscité, il pourra donner à tous la nourriture de la vie éternelle. Avant même sa mort, dans les jours qui suivront son entrée à Jérusalem, donner cette nourriture de Dieu sera d'ailleurs l'œuvre ultime.
Il était chaque jour à enseigner dans le temple. Les grands prêtres et les scribes cherchaient à le faire périr, et aussi les chefs du peuple. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire, car tout le peuple suspendu à ses lèvres l'écoutait.
Ainsi, dans ce dernier acte, dans ce dernier geste qu'il fait avant de mourir, Jésus accepte le rôle de roi Messie, mais il l'accepte en ne gardant du Messie que l'essentiel de la fonction, interpréter la Torah, la règle de vie donnée par Dieu. C'est en effet dans la fonction traditionnelle du Messie d'interpréter cette parole du Père, du roi son Père. C'est donc là le véritable rôle de Jésus comme Messie, interpréter la pensée de Dieu, accomplir cette pensée de Dieu par ses actes et par ses paroles, et ainsi, comme disent les écrits juifs, amener la présence de Dieu sur la terre, saturer le quotidien d'éternel.
Je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a donné un précepte à dire et à prêcher, et je sais que son précepte est vie d'éternité.
Dans le récit de Jean, à Pilate qui lui demande s'il est le Messie, Jésus répondra en effet qu'il est venu pour témoigner de la vérité.
Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Qui est de la vérité écoute ma voix.
Eh bien, ce rôle du Messie, ce rôle de Jésus est toujours aussi actuel. Il appartient maintenant à ses disciples d'en continuer la mission. Et c'est en plein cœur du monde. Mais bien sûr, au-delà de toutes les formes de royaume terrestre, que le disciple de Jésus doit être porteur d'un évangile d'amour et de paix pour inviter tous les humains à vivre la justice et la réconciliation. Mais les pleurs de Jésus sont eux aussi toujours actuels, car ils disent la souffrance de Dieu devant ce refus par l'ensemble de l'humanité de l'amour. Il appartient aux disciples de Jésus de vivre comme leur maître. Si l'entrée de Jésus à Jérusalem comme Messie n'a pas été triomphaliste, s'il n'a pas été un Messie s'imposant par la force, aujourd'hui encore ses disciples doivent être les témoins d'un Dieu qui ne s'impose pas, d'un Dieu qui se propose humble comme l'amour, qui s'expose au refus, respectueux de la liberté de chacun, préférant souffrir que de faire souffrir. Écoutons ce qu'en disait Maurice Zendel.
Comment révéler Dieu sinon en respirant en nous et dans les autres cette douleur divine qui se traduit dans les pleurs de Jésus? Un chrétien, ce serait celui qui sentirait à chaque instant que Dieu est en péril et qui, à chaque instant, se porterait au secours de Dieu, en lui et dans les autres, et qui s'efforcerait justement, en dépassant ses propres limites, de faire de sa vie un espace pour recueillir l'éternel amour.
Seigneur, pour ta gloire et le bonheur de mes frères, accorde-moi d'avoir souffle de pauvre, acceptant de paraître faible et sans défense, plutôt que de peiner ou de briser, car tu m'as sauvé par ta croix.
Seigneur, accorde-moi d'être humble et doux de cœur, sans me raidir devant les critiques, les jugements durs ou hâtifs, supportant les étroitesses d'esprit et les égoïsmes révoltants, car tu m'as comblé de tes biens.
Seigneur, accorde-moi un cœur qui a soif de justice et de paix, persévérant malgré la fatigue, la lassitude et l'échec, soucieux de ne jamais porter personne au découragement. Fais de moi un témoin d'espérance, car tu m'as rassasié de ton amour.
Seigneur, accorde-moi un cœur droit et bon, n'interprétant jamais en mal la peine que je peux subir. Apprends-moi à pardonner à ceux qui peuvent me haïr, car tu as donné ton pardon à ceux qui t'ont condamné. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission, la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
256-4110, vous nous trouverez également sur Internet. Notre site est à www.relaismontroyal.com. Relais Mont-Royal en un seul mot et sans trait d'union. Si vous voulez aussi, vous pouvez vous abonner pour 3 mois ou 6 mois. Aux feuillets ou aux cassettes de cette émission, téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean B. Duchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.